Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Parce que la consommation d'alcool pendant la grossesse, c'est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Malformations, difficultés d'apprentissage, troubles de l'attention et du comportement, Santé publique France communique largement depuis le 4 septembre dernier, notamment afin de sensibiliser les femmes enceintes et leur entourage aux risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Le grand public sous-estime souvent ce risque du fait de la pertinence d'idées fausses véhiculées notamment par la persistance d'idées fausses qui sont véhiculées notamment par l'entourage de la femme enceinte. Alors quelque soit la quantité absorbée et quel que soit le type de boisson alcoolisée, la consommation d'alcool pendant la grossesse expose le bébé à des perturbations de son développement. À la naissance et plus tard, elle peut entraîner des malformations, des difficultés d'apprentissage, des troubles de l'attention et du comportement pouvant amener au décrochage scolaire et à des difficultés d'insertion sociale. Alors zéro alcool pendant la grossesse, on en parle avec notre invité qui est le docteur David Germano. Merci de nous rejoindre, vous êtes au téléphone. Vous êtes neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci en tout cas de vous être rendu disponible ce matin.
Alors, à l'occasion
de la journée mondiale de sensibilisation du syndrome de l'alcoolisation fœtale, qui s'est tenue le 9 septembre dernier, Santé publique France a déployé une campagne nationale d'information dans la presse et sur le web, à la fois auprès du grand public et des professionnels de santé. Toute consommation d'alcool pendant la grossesse est susceptible de présenter un risque imposant le principe de précaution zéro alcool pendant la grossesse. Alors, dites-nous tout d'abord, docteur, un mot sur les objectifs de cette nouvelle campagne de prévention.
Alors les objectifs, ils sont d'une part que tout le monde prenne conscience de ce risque, parce que c'est une question qui intéresse tout le monde, pas que les femmes enceintes.
Oui.
C'est vraiment la question de les consommations d'alcool dans nos sociétés qui consomment de l'alcool pour des raisons festives et culturelles peuvent présenter un risque pour certains, les plus vulnérables. Et donc le message en population générale s'adressant à tout le monde, il est simple et universel.
Oui.
Il est certes, l'alcool peut être dangereux pour certaines personnes, il faut savoir que c'est le cas pour le bébé en développement dans le ventre de sa mère, et donc pendant la grossesse, il est plus responsable de ne pas consommer d'alcool, et quand on ne peut pas arrêter tout seul, il faut chercher à se faire aider. Ça, c'est le premier message.
Oui.
Le deuxième, c'est évidemment de donner un peu plus de précision sur la nature de ces difficultés et de ces troubles qui peuvent être causés par l'alcoolisation fœtale chez certains enfants exposés à l'alcool dans le ventre de leur mère, pour que les femmes comprennent mieux et qu'elles puissent prendre la décision de façon éclairée de s'abstenir de toute boisson alcoolisée pendant la grossesse.
Alors, nous allons tout de suite entendre Caroline Marcel Orezé-Kovitch, elle est chargée de communication prévention alcool à Santé publique France. Elle a été en charge de la communication sur les risques de l'alcoolisation fœtale. On l'écoute et on se retrouve juste après, docteur.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a au minimum un enfant par jour qui naît avec un trouble causé par l'alcoolisation fœtale et un enfant par semaine avec un syndrome d'alcoolisation fœtale qui est la forme la plus grave. Et aujourd'hui, il nous paraissait très important de reprendre la parole sur ce sujet puisque ces chiffres-là sont largement sous-estimés car ils ont été calculés sur des enfants hospitalisés de moins d'un mois. Donc tous les troubles qui sont liés à la capacité cognitive, à l'apprentissage et à la scolarisation des enfants par la suite n'est pas inclus dans ce calcul-là. Depuis 3 ans, Santé publique France prend la parole de manière régulière sur ce principe de précaution. Les bilans des campagnes précédentes nous ont appris que les connaissances sur ce sujet ont évolué, elles se sont améliorées et que le message est de mieux en mieux perçu. On est passé de 25% de connaissances du public à 44%, mais il reste du coup des efforts à faire. Cette campagne interpelle toutes les femmes en âge de procréer et elle incite à l'auto-questionnement, ces femmes-là, via un message empathique, sans jugement, un message d'amour filial. En soi, ce message d'abstinence, il peut être éventuellement difficile à accepter. Donc cette campagne de prévention veut laisser le libre choix aux femmes de consommer de l'alcool ou non. On a développé une campagne presse dans des titres féminins, parentaux et généralistes. En complément, il est prévu une diffusion en digital via des bannières publicitaires. Toute cette campagne renvoie vers Alcool Info Service. Bien évidemment, pour toutes les femmes enceintes, la meilleure des prises en charge reste quand même d'en parler avec le professionnel de santé qui suit la grossesse.
Alors, docteur, la campagne s'appuie sur un message clé. Vous buvez un peu, il boit beaucoup, afin de promouvoir le principe de précaution zéro alcool pendant la grossesse, tout en essayant de ne pas culpabiliser ces femmes. Et cet aspect est assez important.
Oui, c'est très important parce que, d'une part, il faut jamais oublier qu'il y a des niveaux de consommation qui sont très variables.
Oui.
Et que chez certaines femmes, la réception du message va s'accompagner naturellement de « bon, effectivement, c'est plus raisonnable, après tout, je vais pas manger de poisson cru, je vais éviter certains aliments, je vais prendre certaines précautions, celle-là est finalement tout à fait raisonnable et je l'applique. » Et puis d'autres vont être dans une situation de plus grande difficulté ou parce qu'elles se rendent compte très tard finalement qu'elles sont enceintes et elles ont déjà eu des consommations qui posent problème et il faut pouvoir faire quelque chose et il faut pas qu'elles se tairent dans le secret parce qu'elles auraient...
Alors, justement, comment réagir dans ces cas-là?
La deuxième chose, c'est que certaines femmes vont avoir réellement du mal à s'arrêter. Tout le monde n'a pas une consommation totalement responsable et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Certaines d'entre nous ont des difficultés avec l'alcool et si on ne leur propose pas d'aide, elles ne pourront pas arrêter. Donc, il ne faut pas les culpabiliser, il faut les amener à en parler.
Alors, justement, j'ai bu de l'alcool avant d'apprendre que j'étais enceinte. J'ai peur que mon enfant soit touché. Alors, comment dois-je réagir?
Alors, la bonne façon de réagir, enfin la façon qui va être la plus utile et la plus constructive, c'est d'en parler à son professionnel de santé, c'est-à-dire la sage-femme ou le médecin, en lui faisant état de cette consommation et en lui faisant état aussi de la possibilité ou non de s'arrêter, est-ce que je vais avoir du mal ou pas, pour qu'il puisse estimer mon risque à moi, pas le message général qui est un message pour tout le monde, mon risque à moi, et qui puisse me conseiller sur la suite de ma grossesse. Peut-être que, globalement, ben finalement, mon risque à moi, il est assez faible, et on va pouvoir être rassurant, et puis le suivi des grossesses en France, il est très attentif, et donc on va rien faire de plus. Ou alors, dans ma situation, ben, y a des choses de plus à faire, ou m'aider à ne plus consommer parce que je vais avoir du mal, ou alors suivre plus attentivement ma grossesse, proposer des moyens pour limiter le risque, et puis surtout pour accompagner l'arrivée du bébé, qui pourrait effectivement avoir été fragilisé par cette consommation d'alcool. De la même façon qu'un bébé, par exemple, qui naît trop tôt, un prématuré, on ne va pas le laisser repartir sans accompagnement spécifique parce qu'il est plus fragile que les autres. Un bébé qui a été exposé à un certain niveau de consommation d'alcool, il ne faut pas le laisser repartir comme ça. Il faut pouvoir l'accompagner après la naissance pour pouvoir anticiper ses besoins et intervenir tôt si nécessaire.
Alors, quels sont les dangers auxquels une femme enceinte expose son enfant lorsqu'elle boit pendant la grossesse?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Il y a deux grands niveaux de danger. Je dirais, globalement, le niveau qui s'applique à toutes les consommations. On ne connaît pas tout des conséquences de l'alcool. Il y a des conséquences de l'alcool qu'on est en train de découvrir, qui ne sont pas celles dont je vais parler après, qui ne sont pas les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Il peut y avoir des conséquences de l'exposition à l'alcool plus d'autres facteurs de risque, un petit microbe qui passe, jeûner trop tôt, etc. Donc il y a un risque incompressible, très difficile à évaluer et qui ne doit pas non plus inquiéter outre mesure, mais qui fonde ce principe de précaution, d'accord? Tout le monde est différent, la sensibilité de tout le monde est différente.
D'accord.
Il y a des risques qu'on ne connaît pas, donc on ne consomme pas. Et puis, il y a des risques très bien identifiés, très bien connus, qui sont ce qu'on appelle les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire les conséquences directement attribuables à l'alcool sur le développement de l'enfant, beaucoup, beaucoup le développement de son cerveau, et c'est pour ça que le risque, c'est des troubles du neurodéveloppement, l'intelligence, les coordinations, langage, donc des retentissements sur les apprentissages à l'école, sur les acquisitions précoces et puis sur le comportement. Et puis, pour certains, il va y avoir des conséquences sur la fabrication des organes. Hein. Le cœur, le cerveau, le squelette, il peut y avoir des malformations. C'est plus rare, mais ça peut survenir. Et quand ces malformations sont présentes, un certain nombre d'entre elles, caractéristiques, le médecin voit ce qu'on appelle un syndrome malformatif, qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui constitue la forme finalement la plus complète des troubles causés par l'alcoolisation fœtale.
La plus grave aussi.
Vous savez, c'est grave, même s'il y a, ça peut être grave, même s'il n'y a pas de syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est pour ça que j'ai dit la forme la plus complète, c'est celle où il peut y avoir des malformations d'organes.
D'accord.
De temps en temps, il n'y a pas ces malformations, et pour autant, l'enfant a des difficultés majeures dans son fonctionnement cognitif, c'est-à-dire, pour être simple, les apprentissages, les acquisitions, et parfois même un retard mental.
Est-ce que ces troubles peuvent intervenir plus tard, à l'âge adulte par exemple, comme ça, du jour au lendemain?
Alors, comme ça, du jour au lendemain, à l'âge adulte, c'est pas des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. D'accord? Le trouble causé par l'alcoolisation fœtale, ça s'accompagne d'un trouble du neurodéveloppement. D'accord. C'est-à-dire la perturbation de la mise en place du fonctionnement dans l'enfance. Donc globalement, ce sont des enfants, quand par exemple un nouveau-né naît et sa maman fait état d'une consommation d'alcool importante qui le met à haut risque, je vous ai expliqué qu'il était très important de le faire suivre, même si c'est pas forcément organisé aussi bien que ça devrait dans notre pays, on le fait suivre jusqu'à, c'est-à-dire que quelqu'un garde, un médecin, un soignant garde un regard attentif pour pouvoir intervenir précocement, jusqu'au milieu de l'école élémentaire, hein, jusqu'à 7-8 ans, et s'il ne s'est rien produit, c'est que l'enfant fait partie de ces enfants qui ont été exposés et qui vont bien, parce que ça existe.
Alors, et pourquoi dit-on qu'il vaut mieux ne pas boire d'alcool, au cours du premier trimestre de grossesse? Pourquoi, pendant cette période, on insiste un petit peu plus sur ces trois premiers mois, docteur?
Alors, on ne devrait pas insister plus sur ces trois premiers mois. L'alcool, pendant la grossesse, expose à des risques pour le neurodéveloppement et pour le développement en général à tous les stades de la grossesse, aussi bien au début qu'à la fin. Au premier trimestre, la particularité, c'est que les organes sont en formation. Donc, si vous êtes particulièrement sensible, si le bébé est particulièrement sensible ou si les doses sont particulièrement élevées, on peut donner des malformations. C'est-à-dire que, par exemple, le cœur, vous savez que le cœur, il y a quatre cavités, il y a quatre poches dans le cœur qui permettent de le faire fonctionner, il peut y avoir un trou qui fait communiquer une poche avec une autre. Voilà, ça c'est une malformation cardiaque et ça ne survient que lorsqu'il y a une exposition du premier trimestre pendant que le cœur est en train de se former.
D'accord.
Mais après, au deuxième et au troisième trimestre, d'abord, le cerveau continue, lui, à se former.
Oui.
Et puis, il y a la croissance du bébé. Et puis, il y a la maturation du cerveau, tous les petits branchements, les petites connexions qui sont extrêmement sensibles. Et donc, on voit très bien que l'exposition au deuxième et au troisième trimestre n'est absolument pas anodine.
Alors, nous avons un petit micro-trottoir enregistré dans les rues de la capitale sur le rapport à l'alcool pendant la grossesse. On écoute et on se retrouve juste après, docteur.
Oui.
Je ne suis pas consciente de tous les dangers exactement en termes pratiques, mais j'imagine que c'est très dangereux effectivement de consommer de l'alcool pendant une grossesse, peu importe le stade j'imagine, mais je ne connais pas plus de détails que ça. Je pense qu'il y a un danger, mais sans réellement savoir lequel en fait.
De toute façon, l'alcool, la façon dont c'est fabriqué, ça reste quand même un produit nocif, notamment pour le foie et la foie, donc c'est vraiment pas recommandé.
Il y a des enfants qui sont par exemple turbulents de naissance, hein. Parfois c'est dit à l'alcool.
Bah, c'est pas bien pour l'enfant, l'enfant il est handicapé, on met le bébé en danger.
L'enfant il pourrait être alcoolique, surtout c'est risqué parce que enfin on en parle, mais pas vraiment. Je sais que c'est très dangereux.
Les risques en soi, on sait tous que c'est pas bien, mais on sait que l'alcool ça reste beaucoup dans le sang. Donc du coup, pour la nutrition du bébé, c'est pas bon.
Moi, je serais plutôt envie de dire qu'il faudrait totalement arrêter l'alcool et la cigarette aussi en fait. Donc même inverse, c'est pas anodin, je pense.
Petite réaction, docteur ?
Oh, ben, il y a eu beaucoup de choses de dites. J'ai en tête la première intervention parce que je trouve qu'elle illustre bien l'effort qui est actuellement fait, que vous faites d'ailleurs avec l'émission en abordant ce sujet. Les gens sont conscientisés par le message de prévention générale, hein, par précaution. On ne consomme pas d'alcool pendant la grossesse parce que c'est un produit phytotoxique et tératogène. Voilà, donc cette dame, elle le dit très bien. Je sais que c'est toxique, je me doute qu'il y a un danger, j'ai bien conscience, mais je sais pas trop quoi. Et donc c'est la deuxième partie du message, c'est les sous-textes, hein, c'est les explications qui sont données à travers la presse, à travers les petits écrits qui accompagnent le message, à travers le site Alcool Infoservice qui n'est pas uniquement un site pour quand on a un problème chronique d'alcoolisme, mais c'est pour tout le monde qui veut s'informer sur cette question et qui se pose des questions sur sa consommation. Donc le sous-texte, bah, c'est les explications et c'est ce qu'on est en train de faire.
Alors au téléphone,
c'est important.
Un auditeur, Ousmane. Bonjour Ousmane, merci de nous rejoindre. Alors allez-y rapidement pour votre question.
Oui, je voulais poser la question au docteur. Un bébé qui a nagé dans le ventre alcoolique de sa mère devenait-il plus tard un grand soulard, un grand alcoolique quoi?
Merci. Alors, pour la question, Ousmane.
Ouais. C'est une question effectivement beaucoup de gens se posent. Est-ce que le fait d'avoir été exposé dans le ventre de sa maman, ça expose à un sur-risque de consommation d'alcool quand on sera plus grand? Eh bien la réponse, elle est oui et non. Elle est oui parce que tous les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire le fait d'être plus fragile dans son intelligence, dans sa concentration, son comportement, d'avoir des difficultés pendant toute l'enfance dans ses apprentissages, on sait que c'est un sur-risque, effectivement, d'évoluer à l'adolescence et à l'âge adulte vers des consommations addictives d'alcool, mais d'autres produits addictifs. On le comprend bien, hein, on arrive fragilisé, on est moins bien adapté, on a une moins bonne estime de soi. Souvent, surtout si on n'a pas eu la chance d'avoir un accompagnement spécifique et des aides et d'être bien pris en charge, ce qui est malheureusement encore trop souvent le cas, et ben on arrive très fragilisé et on évolue vers des consommations addictives. On sait que c'est un risque. C'est le cas pour tous les troubles du neurodéveloppement. C'est vrai que c'est particulièrement le cas pour ceux causés par l'alcoolisation fœtale, parce qu'on sait que le parcours de vie peut être aussi plus fragilisant. Puis à la maison, il peut y avoir plus facilement la présence de toxiques si la maman a ce type de difficultés. Mais c'est pas l'alcool qui cause l'alcool. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein. On comprend bien, c'est pas l'alcool qui cause l'alcool plus tard. C'est le fait d'avoir un trouble du neurodéveloppement à cause de l'exposition à l'alcool qui fait qu'on va être plus fragile et qu'on, comme personne fragile, on est plus à risque de conduite addictive.
Alors, nous avons également la question d'une jeune auditrice, une jeune femme qui est en Martinique. Elle a deux enfants. Ils sont âgés de 7 et 2 ans. On l'écoute, docteur.
Bonjour, j'ai 29 ans. Alors, j'ai un fils de 7 ans et une fille de 2 ans. Très bonne santé, rien de particulier. Donc j'ai bu très peu d'alcool, uniquement pendant les anniversaires, histoire de trinquer, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Au niveau des risques que j'aurais pu encourir, je m'étais pas en renseignée, quoi, du coup. Je pensais pas à mal, et de toute façon, ils sont en bonne santé, ils sont nés correctement, j'ai pas eu de problème pendant l'accouchement. Bon, maintenant, sachant tous les risques, oui, c'est dangereux, faut pas le faire, faut pas boire du tout. Maintenant, est-ce que vous pensez que, malgré l'âge de mes enfants, il peut y avoir des conséquences maintenant, quoi?
Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, docteur?
Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première chose, c'est une situation fréquente. Et les femmes qui se poseraient cette question pendant leur grossesse, il faut qu'elles en parlent à leurs soignants.
D'accord.
La deuxième chose, c'est qu'on entend cette femme dire « je pensais pas à mal ». Je crois que c'est très important que toutes les femmes qui sont dans cette situation se trouvent pas dans une situation où il faut qu'elles se justifient. D'accord? Si elles ne sont pas au courant, moi je connais pas des mamans qui boivent pour faire mal à leur bébé. D'accord? c'est pas une situation qui existe, en tout cas, c'est pas celle-là qu'on pense. D'accord? Mm-hmm. Et donc, c'est important de le rappeler, quand il y a une question, elle est légitime, et il y a toujours une raison pour laquelle la personne a consommé, parce qu'elle savait pas que c'était dangereux, parce qu'elle savait pas qu'elle était enceinte, parce qu'elle a pas réussi à s'arrêter, et il y a aucune raison de culpabiliser ces femmes. La dernière chose, c'est que tous les niveaux de consommation d'alcool n'ont pas le même risque à l'échelle individuelle. D'accord?
Oui.
On a rappelé tout à l'heure au début de l'émission qu'il y avait tout un tas de risques qu'on connaissait pas et qui justifiaient, compte tenu de la toxicité, de ce qu'on sait de la toxicité de l'alcool, le message de précaution qu'on donnerait pour n'importe quel autre produit dans la même situation, un additif, un médicament pas indispensable, etc. Ensuite, il est vrai qu'il y a des consommations très modestes et très occasionnelles, très légères et très occasionnelles, pour lesquelles on peut se montrer parfaitement rassurant pour les enfants, quand bien même ça n'écarterait pas tout un tas de risques qu'on ne connaît pas et qui justifient le message de précaution.
Oui.
Donc, il est tout à fait possible d'être tout à fait rassurant sur des histoires comme celle de cette dame. Je serais évidemment pas, je vais certainement pas me prononcer sur ces deux petits loulous de 7 et 2 ans que je connais pas, évidemment. Mais en tout cas, si cette maman n'est pas inquiète et que ses enfants poussent bien, il n'y a pas de raison qu'on l'inquiète parce qu'elle a bu de verre pendant sa grossesse.
Alors, que dire aux personnes qui ont une addiction, qui ont un problème avec l'alcool et qui ont envie de procréer ou qui sont enceintes? Comment se faire aider? Et puis, c'est vrai que souvent, dans nos communautés, on a un peu de mal avec l'alcool, on a honte, il y a le poids de la religion, le poids du regard de la famille. Alors, comment se faire aider? Quels sont les conseils que vous avez envie de donner aux personnes qui nous écoutent ce matin, docteur?
Alors, à toutes les jeunes femmes et toutes les femmes qui ont un problème avec l'alcool, même si d'ailleurs elles ne sont pas en âge de procréer parce que c'est plus l'âge de faire des enfants, il faut clairement, d'une part que nous tous, on change notre regard là-dessus.
Oui.
C'est très important que vous en parliez. C'est-à-dire, quand on ne peut pas s'arrêter de boire, c'est une maladie. C'est pas une honte, c'est pas une faute. C'est un problème de santé et on ne porte pas de jugement négatif sur les gens qui ont un problème de santé. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de porter un jugement négatif sur quelqu'un parce qu'il a attrapé la grippe? Non, évidemment. Donc il faut que ces femmes puissent en parler. La deuxième chose, c'est qu'elles peuvent en parler à leur soignant. Et leur soignant n'en parlera pas à leur famille s'il y avait vraiment une difficulté. Le soignant à qui on va s'ouvrir du problème, c'est pas quelqu'un qui va aller en faire la publicité partout, d'accord ? C'est pas la première fois que, pour des problèmes de santé, on se retrouve confronté à ça, à la société. Hein. Y a beaucoup de situations qui sont vues comme stigmatisantes dans la santé. Il faut bien rappeler aux gens que quand ils vont en parler à leur soignant, bah, c'est entre eux et leur soignant. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, ben, les femmes, elles doivent avoir une réponse, d'accord ? Si pour une raison ou pour une autre, leur soignant n'est pas capable de leur donner une réponse claire, eh ben, il faut qu'elles se tournent vers quelqu'un d'autre.
Oui.
Il y a des services spécialisés. Quand le médecin traitant est en difficulté avec la question de l'alcool, il peut très bien orienter vers un médecin spécialiste, hein. Pour les addictions, il y a des consultations et il y a des centres de proximité d'addiction. Hein, qu'on appelle les XAPA, et il faut pouvoir se tourner vers ces personnes-là, qu'il y en a beaucoup sur le territoire. Et puis autour de la grossesse, il faut vraiment en parler à la sage-femme. Je crois que c'est vraiment l'interlocuteur. Hein. Elles sont très sensibilisées, les collègues, je dis elles, parce que c'est souvent des femmes, mais il y a quelques sages-femmes hommes aussi. Savoir leur en parler précocement autour de la grossesse, dès que la question arrive, parce qu'il y a plein de choses à faire pour aider, pour limiter le risque, voire pour supprimer le risque, et puis pour accompagner cet enfant à naître si, par exemple, le risque reste significatif.
Et justement, quels sont les traitements dans ces cas-là ? Est-ce qu'il y a une prise en charge avec des médicaments, ou est-ce que c'est une prise en charge plutôt psychologique ?
Alors, je pense que c'est la bonne question intéresse autant la prise en charge de la maman que la prise en charge du bébé. Pour ce qui est de la maman, toutes les mesures que l'on connaît qui permettent de diminuer, voire d'arrêter la consommation, ça va être un objectif pour la grossesse. Il faut réussir à faire en sorte que cette femme soit motivée, parce que c'est très difficile de se motiver pour arrêter à boire quand on a vraiment des difficultés. Mmh. Et à ce moment-là, toutes les stratégies que nos collègues du périnatal, hein, les sages-femmes, les obstétriciens et puis les addictologues connaissent pour essayer de limiter les consommations. Chaque verre qui n'est pas consommé, c'est un verre bénéfique, ou c'est un verre en moins contre le bébé. La deuxième chose, c'est la grossesse, on va la suivre un peu plus, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le bébé va bien, qu'il n'y a pas de malformation, pour savoir dans quel état il est à la naissance et comment l'accueillir, d'accord ? Pour mieux préciser finalement le niveau de conséquence sur lui, parce que comme on l'a répété plein de fois, tous les bébés sont différents et à un même niveau d'alcool, il y a des bébés qui vont aller bien et d'autres qui vont aller moins bien.
Oui.
Et puis la troisième chose, c'est à la naissance, qu'est-ce qu'on fait de ce bébé ? Ben, on l'accueille et puis là aussi, on réévalue son risque, on voit s'il présente des signes ou s'il ne les présente pas et on voit en fonction du niveau de consommation, en fonction du niveau de risque qu'on a évalué, ben, comment on va le suivre ? Est-ce qu'on va le suivre de façon très rapprochée parce qu'il a des besoins très précoces ?
Oui.
Ou est-ce qu'on va le suivre simplement à visée de surveillance ? Et puis chez certains, on sera amené à lui proposer des petites marche supplémentaire pour ces acquisitions, une stimulation, une aide à la maman sur le plan éducatif pour optimiser le développement de l'enfant et essayer de contrecarrer les effets de l'alcool. Et ça, c'est très important, c'est très utile et ça a montré son efficacité pour inverser un petit peu le cours des choses.
Alors aussi, rapidement, est-ce que les personnels soignants aujourd'hui informent suffisamment les femmes des risques, les sages-femmes, médecins traitants, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés aux problèmes ?
Alors, le constat depuis une quinzaine d'années, hein, depuis d'ailleurs les premières campagnes en 2007, hein, c'est très tardif finalement les premières campagnes en France sur ce sujet,
oui.
Ont montré que non, les professionnels connaissaient pas cette question suffisamment bien. D'accord. Par rapport à des questions finalement de d'importance comparable en termes de maladies causées, en termes de fréquence, eh ben on s'est rendu compte que les professionnels n'étaient pas suffisamment sensibilisés. Puis vous savez, un professionnel, il suffit pas de le sensibiliser, il faut lui donner les outils pour travailler, pour agir. Et eh ben ils n'étaient pas suffisamment outillés, hein, les collègues. Donc c'est pour ça que entre autres, il y a un certain nombre d'initiatives, des enseignements qui se sont multipliés ces dernières années dans les colloques, dans les universités. Et puis, par exemple, Santé publique France, à travers Alcool Info Service, va mettre à disposition un site à destination des professionnels. Donc, depuis quelques années, c'est vrai qu'on essaie de mieux outiller nos collègues parce qu'ils sont en première ligne. Les médecins généralistes doivent pouvoir répondre. Les addictologues doivent pouvoir parler à leurs patientes de la grossesse, de la procréation et des enfants. Hein, ça les concerne eux aussi. Et puis, en période périnatale, la sage-femme, elle doit pouvoir tenir un discours construit, évaluer le risque et ne pas simplement renvoyer la femme à la recommandation générale, mais être capable de l'individualiser pour répondre à ces questions. Et puis, il y a un gros travail aussi d'identification des consommations, parce que c'est pas simple de créer l'environnement, par exemple à la maternité, en consultation, pour que les femmes parlent ouvertement d'une question qui peut être sensible pour elles. Donc c'est vrai que la consultation très courte, c'est pas simple. Et donc, il y a plein d'outils qui sont en train de se mettre en place pour essayer de faciliter cette communication.
Alors, justement, le site Alcool Info Service est à votre disposition sur le site de Santé Publique France pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Il y a également le numéro d'Alcool Info Service de 9h à 2h du matin. L'appel est non surtaxé, c'est au 0 980 980 930 0 980 980 930. Il reste 30 Absolument. secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur David Germano, pour terminer? Il est en 30 secondes.
J'ai envie de dire qu'en parlant bien de cette question des femmes jeunes autour de l'alcool, on va faire progresser à la fois la santé des enfants et puis la maturité de notre société sur cette question d'alcool.
Merci beaucoup de vous être rendu disponible ce matin. On vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, docteur.
Au revoir.
Merci, il est 9h55 sur la radio africaine. La suite d'Ambiance Africa, c'est juste après la petite pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant.